Euradio présente Enquête d'Europe.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Euradio pour une nouvelle émission d'Enquête d'Europe. Je suis Laurent Quenache de Kivilic, étudiant en Master 2 Sciences Politiques de l'Europe à Nantes Université. Nous allons aujourd'hui, avec mes invités, vous parler d'ubérisation. Alors, l'ubérisation, qu'est-ce que c'est ? Apparue au début des années 2010, l'ubérisation doit son nom au leader du secteur, la société Uber. Venue des États-Unis, elle s'est rapidement implantée dans de nombreux pays et notamment largement en Europe. Initialement cantonnée au monde des VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur, cette entreprise a rapidement conquis des parts de marché aux taxis en promettant des courses plus rapides et moins chères que les taxis traditionnels. Son domaine d'activité s'est ensuite étendu à d'autres secteurs, notamment la livraison de repas à domicile. L'entreprise a alors rencontré la concurrence d'autres acteurs qui proposent également des livraisons de repas et autres services. Quel point commun entre ces entreprises ? Elles se structurent toutes autour d'une plateforme numérique de mise en relation entre les clients et les livreurs ou chauffeurs. C'est d'ailleurs la seule activité en propre de ces entreprises. En effet, les livraisons ou les courses ne sont pas réalisées par des salariés des entreprises concernées, mais par des auto-entrepreneurs réputés indépendants. Vecteur d'emploi pour certains, vecteur de précarité pour d'autres, ce modèle économique suscite les débats. Nous allons essayer d'y voir plus clair avec nos deux invités et de comprendre les nouveaux enjeux auxquels les pouvoirs publics, au niveau local comme européen, sont confrontés. Odile Chani, bonjour. Vous êtes économiste à l'IRES, l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Vous avez coécrit « Désubériser, reprendre le contrôle », paru en 2020 aux éditions du Faubourg. Thibaut Guinet, bonjour. Vous êtes conseiller municipal et métropolitain de Nantes et Nantes Métropole, en charge notamment de la logistique urbaine et de la ville du quart d'heure.
Bonjour.
Je vais me tourner dans un premier temps vers vous, Odile Chani. Qu'est-ce qui pousse ces plateformes à avoir recours à l'auto-entrepreneuriat ?
Là, la question que vous me posez, c'est la question de la nature du lien contractuel avec lesquels les plateformes travaillent avec leurs travailleurs, enfin, principalement dans le contexte français. Et finalement, enfin, c'est presque comme si c'était une bout de chaîne de raisonnement que d'arriver à là. C'est-à-dire qu'en fait, si le social est la variable d'ajustement sur lequel jouent principalement les plateformes, c'est parce qu'en fait, leur modèle économique et leur modèle d'affaires ne peut pas s'accommoder du tout facilement, on va dire ça comme ça, de conditions de travail qui soient vertueuses, ou en tout cas qui soient décentes pour ces travailleurs-là. Parce que on est, et la plupart des plateformes dont on parle là, quand on parle d'ubérisation, parce qu'il faut vraiment distinguer ubérisation et plateformisation, ces plateformes interviennent dans des champs d'activité dans lesquels on est sur des prestations de, souvent, pas que, mais souvent de faibles valeurs ajoutées avec un faible consentement à payer cher. Par exemple, si vous faites livrer un repas, bah, vous n'allez pas accepter de payer trop cher le repas. Et si vous êtes restaurateur, vous avez des contraintes de marge. Pareil quand on est dans le champ du transport de personnes avec en VTC, en voiture. Et donc, c'est ça qui principalement explique pourquoi la rémunération qui est offerte et proposée aux travailleurs est principalement le levier sur lequel elles peuvent jouer le plus facilement.
Donc c'est oui essentiellement pour des raisons d'économie et de modèle économique des plateformes qu'elles font ça. Et Thibaut Guinet, justement, je pense que sur ce sujet, parce que ça a aussi des conséquences, l'auto-entrepreneuriat pour au niveau des conditions de travail des livreurs ou des chauffeurs, et quelles sont-elles et comment ça se manifeste au quotidien ?
Clairement, aujourd'hui, sur le terrain, on est face à des entreprises qui se cache derrière ce modèle économique. Un, déjà parce que, comme c'était très bien précisé, leur modèle économique, il n'est pas fiable avec des contrats de travail classiques, avec des cotisations sociales. Il n'est pas non plus fiable parce que, de facto, les entreprises aujourd'hui, comme Uber Eats, Deliveroo, Cajou, Flink, qui font de la livraison avec de l'ubérisation, n'ont pas un modèle économique, même avec ce modèle-là, qui n'est toujours pas rentable. Elles ne sont toujours pas à l'équilibre. On est en fait sur une stratégie de certains acteurs de destruction créatrice, un peu schumpeterienne comme vision économique, où ils se disent on va venir détruire un modèle social, le fracturer, pour pouvoir imposer le nôtre qui nous sera plus avantageux en termes économiques et en termes de retour d'investissement. Sauf que c'est une façon extrêmement anarchique d'un développement économique. On n'a aucun contrôle aujourd'hui On a eu une tension, par exemple, à Nantes, avec les livreurs. À l'origine, la promesse, c'était des livraisons à vélo. Bon, je vous avoue que très rapidement, on s'est retrouvé avec des scooters thermiques dans tous les sens. Des non-respects des règles que les entreprises classiques, avec des contrats de travail classiques, menaient, c'est-à-dire des livraisons avec des horaires encadrés, avec des véhicules, avec des motorisations spécifiques. Nous n'avions aucune règle respectée, puisque les entreprises nous disaient « ce n'est pas notre problème à nous, c'est notre prestataire de service, puisque fondamentalement, un salarié ubérisé, c'est une entreprise d'une personne qui propose un service à une entreprise. » Et c'est là où tout se joue pour nous, c'est que ça amène un tissu économique incontrôlable, avec des revenus extrêmement bas, comme c'était évoqué. On joue sur les marges le plus possible, avec aucune cotisation sociale. Aujourd'hui, on a quand même énormément de personnes qui nous disent qu'ils touchent entre 700 à 800 euros par mois, et je suis plutôt sympathique en disant ça, en ayant des taux horaires de travail qui sont bien plus conséquents que 35 heures. On est des fois sur plus de 50 heures. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui ne marche pas et qu'on a, nous, en tant que politique, un enjeu énorme de régulation et de ramener du sens dans ce monde qui est l'ubérisation et qui est cette économie de la plateforme.
Mais justement, c'est assez étonnant ce que vous dites, puisque on voit que donc les plateformes aujourd'hui, que ce soit Uber, Deliveroo ou autre, ne sont pas rentables. Et pourtant, dans le cas d'Uber, elle n'arrête pas d'avoir des levées de fonds records et très importantes. Et donc, il y a sans doute ce que vous pointez, cette volonté de destruction créatrice. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent que ces plateformes attirent autant les investisseurs alors même qu'elles ne sont toujours pas rentables pour Uber depuis 10 ans ? Est-ce que, je crois qu'Odile Chani, vous parlez aussi de la question de la donnée, de l'économie de la donnée à ce niveau-là ?
Alors oui, en fait, il y a vraiment deux façons au minimum de s'interroger sur les modèles d'affaires de ces plateformes-là. C'est-à-dire, la première, c'est de regarder la façon dont elles proposent un service qui existait avant elles. Hein. Les cochers, ça existait depuis le 18e. Et de voir comment le modèle économique le propre lié à la prestation de service est ou n'est pas rentable. Le second, c'est de comprendre qu'en fait, on est dans une compétition qui est schumpeterienne au sens de la destruction créatrice, parce que ça, c'est sûr que les conditions de concurrence sont tellement peu loyales que c'est facile d'être destructeur et peu créateur. Mais on est aussi dans un contexte qui est quand même fondamentalement de l'économie numérique, où l'enjeu, c'est de durer le plus longtemps pour collecter le plus de données et monétiser cette donnée. Et dans ce jeu-là, qui est un jeu qu'on connaît hein, dans le monde du numérique, puisque c'est ce qu'on appelle l'effet de réseau, la concurrence monopolistique, le fait qu'en gros, à un moment donné ou à un autre, il en restera quelques-uns. C'est probablement ce qui est déjà en train de se dessiner un petit peu du côté de la livraison ou des transports, où on voit bien dans le contexte concurrentiel, en tout cas en France, que toutes les plateformes ne s'en sortiront pas de la même manière. Mais fondamentalement, quand on regarde ce qui se passe du côté des comptes d'Uber, oui, Uber est déficitaire. Et d'ailleurs, au deuxième trimestre de cette année, en gros, ils ont réussi pour la première fois à dégager un bénéfice trimestriel. Mais là-dedans, en fait, on a des coûts et des frais de recherche et développement qui sont monumentaux. Ça représente à peu près l'équivalent, en gros, du résultat. C'était 2 milliards d'euros en 2021. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit aussi, y compris quand on regarde un petit peu à une échelle internationale, comment évolue l'activité d'Uber, c'est que petit à petit, la part de la business unit qui est liée à la logistique et à la mobilité, à la logistique propre, c'est-à-dire en fait Uber comme solution de mobilité, en capacité ou pas de nouer des partenariats avec un certain nombre d'acteurs de la logistique, est en train de prendre de plus en plus de place. Et donc pendant ce temps-là, pendant tout le temps où en fait, le modèle n'est pas en capacité de dégager des revenus et non plus de fournir en fait des conditions de travail décentes, on est dans des conditions dans lesquelles on casse la concurrence, mais surtout en fait on prépare un autre type de modèle économique sur lequel en gros la data est celle qui va générer de l'argent. Et ça, C'est beaucoup plus difficile de voir. Par contre, ce qui est certain, et un rapport du BIT l'avait particulièrement bien illustré dans le rapport sur le travail de 2021, les investisseurs, ils ont parfaitement conscience de ça.
Mais donc, on est au final sur quelque chose qui est assez proche de la stratégie employée par Amazon pour s'implanter sur la question de la livraison, c'est-à-dire de casser les coûts au mépris de conditions de travail pour s'imposer en tant qu'acteur principal dans un domaine, quoi. C'est ça l'idée.
Oui, sauf qu'en fait, tout le monde est un peu revenu de l'idée que, en gros, le winner takes all, comme on dit, c'est-à-dire la capacité d'une plateforme numérique type Amazon, enfin les GAFAM, en gros, à vraiment occuper tout l'espace du marché. En fait, c'est pas du tout aussi facile pour les plateformes qui sont sur des segments de services à faible valeur ajoutée. Et c'est pour ça que c'est coûteux. À tout point de vue, c'est-à-dire en temps, en levée de fonds et socialement.
Et Thibaut Guinet, vous parliez aussi justement de la question des difficultés pour les villes de réagir à ces nouveaux acteurs anarchiques qui s'installent sans contrôle et puis avec effectivement cette question de la facilité qu'ont ces plateformes à se dédouaner sur les auto-entrepreneurs. Je voyais aussi, là, en ce moment, il y a un nouveau sujet qui émerge sur cette question-là, qui est celui le sujet des dark stores, où, globalement, pour résumer un peu ce qu'est un dark store, c'est un commerce mais dans lequel les clients n'ont pas le droit de rentrer, où il s'agit de commander sur Internet nos courses et de les faire livrer aussi dans un temps record, ce qui pose un certain nombre de questions. Aujourd'hui, on le voit, la législation française ne semble absolument pas permettre aux collectivités d'avoir les outils pour décider comment s'implantent ces entreprises, ces sociétés.
Disons que sur les dark stores, c'est un exemple assez intéressant, c'est-à-dire que c'est un modèle hybride. C'est là où on a été embêté très rapidement. Dans l'ubérisation, il y a beaucoup d'hybridation, des modèles économiques qui sont nouveaux, donc notre législation n'était pas prête, et donc on a dû à chaque fois réussir soit à innover, par exemple, sur la question de comment on a essayé de réguler à Nantes la question des livreurs Uber, Hit et Deliveroo, on l'a fait par notre réglementation ZTL et des livraisons, puisqu'ils répondaient à cette question-là, et on a réussi, à partir de là, à avoir un cadre juridique protecteur. Et on n'a pas pu être cassé en TA par Uber, Hit et Deliveroo, dont d'autres villes ont tenté d'autres manœuvres d'arrêtés municipaux qui n'ont pas tenu parce qu'ils n'avaient pas eu ce cadre-là. Donc on voit que des fois, il y a des failles, on travaille collectivement, des fois sur ces sujets. Sur les dark stores, c'est plus un peu tout bête, c'est qu'on n'a pas de définition juridique de ce qu'est un dark store. Et en fait, l'économie souvent numérique et l'ubérisation nous demande à avoir une capacité du gouvernement ou du législateur, mais en l'occurrence, le gouvernement a peut-être l'efficacité supplémentaire, d'avoir rapidement une capacité à réagir à certains modèles, à ne pas avoir trop de coups de retard. On aura toujours un coup de retard face aux acteurs du numérique, il faut se le dire. Mais à être quand même dans le bon tempo. Là, aujourd'hui, l'enjeu de la négociation, c'est de dire que dans les futures plumes et dans les modifications de plumes, nous allons pouvoir, sur des linéaires commerciaux, sur des zones entières, dire « ici, on ne veut pas de dark store ». Et pour dire qu'on ne veut pas de dark store, on ne peut pas juste dire « on ne veut pas d'entrepôt ou on ne veut pas de tel commerce ». Sinon, ça va nous bloquer, parce que dans nos politiques à côté, par exemple de logistique urbaine, où on décarbone, où on essaye de trouver des nouvelles solutions, on a besoin d'entrepôts dans les hypercentres. Donc, on doit avoir une définition juridique précise de ce qu'est un dark store. C'est là où ça nous demande quand même, en tant qu'élu, mais dans tous les niveaux, aussi au niveau des fonctionnaires, au niveau de l'État, une vraie capacité de prospective à voir les coûts venir et avoir une capacité d'adaptation. Et puis, il faut aussi se le dire, des fois, on doit regarder si le modèle est totalement délétère ou pas. Alors là, je parle de l'économie numérique parce que vous l'avez bien compris que sur l'ubérisation, nous, on a une opposition très forte, puisque là, pour nous, c'est un modèle qui fracture totalement notre contrat social. Mais sur l'économie numérique, là, on a un autre sujet sur comment elle peut être accompagnée et comment nous, on la régule.
Et pour revenir justement sur la question de l'ubérisation et des liens avec la législation, on a vu, au moment où les VTC Uber ont essayé de s'implanter en France, il y a eu des fortes contestations, notamment de la part des taxis qui ont remis en cause le fait que n'importe qui pouvait au final se substituer à leurs activités sans payer la fameuse licence taxi. Et donc on a eu récemment un éclairage un peu nouveau sur cette question, puisque On a su dans la question des Uber Files qui ont été étudiés par un consortium de journalistes internationaux que Emmanuel Macron, qui était alors ministre de l'économie, a reçu très régulièrement des représentants d'Uber pour faciliter en quelque sorte, de ce qui sort en tout cas des articles, c'est du moins ce qu'écrivait Le Monde, faciliter l'implantation d'Uber en France, y compris contre son gouvernement, enfin contre une partie du gouvernement de l'époque. Et donc ça, est-ce que c'est une spécificité française là, à quel point nos pouvoirs publics ont été au final assez conciliants avec Uber et ont permis l'installation d'Uber, ou est-ce que partout en Europe ça s'est fait de la même façon et partout les législations nationales ont eu un temps de retard conséquent pour intervenir, voire on vu ça comme plutôt une opportunité, Odile Chani peut-être?
En fait, ce qui s'est quand même passé un peu partout, mais vraiment partout, c'est-à-dire qu'il y a eu un effet de sidération. C'est vraiment, pour aussi aller dans le sens de ce que disait Thibault tout de suite, on a vraiment quelque chose qui a pris de court l'ensemble des acteurs, des secteurs dans lesquels ces acteurs-là nouveaux sont venus s'implanter. Dès le départ, les réactions, mais pas forcément des pouvoirs publics, y compris des acteurs sectoriels, parce que c'est quand même fondamentalement un enjeu de concurrence, ont réagi différemment. Et il y a des pays dans lesquels, par exemple, dès le départ, les chauffeurs qui travaillaient par plateforme étaient obligés de passer par ce qu'on appelle l'équivalent en contexte français de capacitaire, et donc d'être salariés. La spécificité du cas français, on pourrait quasi la qualifier comme ça, c'est de dire qu'il y avait plus de failles juridiques, en quelque sorte, dans lesquelles les plateformes pouvaient s'insérer, avec un effet d'opportunité qui était massif, qui est permis justement par la loi Novelli, qui avait créé le statut d'auto-entrepreneur. On avait à la fois eu une réforme de ce qui était les VTC, et on avait eu la capacité aussi de passer par un certain nombre d'acteurs qui ont permis finalement à certaines plateformes de s'implanter de manière beaucoup plus aisée que dans d'autres contextes. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de résistance dans le cas français de la part des acteurs du secteur, et je rappellerai quand même tous les débats, l'énergie qui a été dépensée par l'ensemble des parties prenantes dans le cadre de la loi Thévenoud, de la loi Grand-Guillaume. Mais en fait, fondamentalement, et c'est ça qu'on voit à l'approche française, mais aussi dans d'autres pays européens, c'est-à-dire à partir du moment où vous considérez qu'une plateforme ne relève pas d'un secteur d'activité donné, mais est un acteur de la société de l'information, ce qui est exactement ce qu'a dit la Commission européenne dans son document de juin 2016, qui a été très marquant et structurant pour l'ensemble de la position qu'a eu la Commission européenne par la suite. À partir du moment où vous considérez que c'est une entreprise à la société de l'information, elle s'exonère de toutes les régulations qui relèvent du champ sectoriel. Or, la régulation sectorielle, c'est de dire, dans le contexte français, vous, quand vous transportez une personne, vous relevez du secteur qu'on appelle T3P, c'est-à-dire le transport particulier de personnes. À partir du moment où on aurait à un moment donné débouché au niveau législatif sur le fait de considérer que Uber finalement était avant tout une entreprise de transport de personnes, dans ce cas-là, elle aurait été amenée à être assujettie à l'ensemble des réglementations sectorielles du secteur. De fait, il y a eu, en quelque sorte, des cautères sur des jambes de bois. Ni la loi Thévenoud ni la loi Grand-Guillaume n'ont permis d'inclure les acteurs de plateforme dans une logique sectorielle. Et par ailleurs, on avait dans le contexte français la conviction très forte, qui a toujours été affirmée. Là, d'ailleurs, le président Macron l'a réaffirmé cet été quand il a réagi au Uber Files, que ces plateformes-là, c'était des opportunités, je dirais pas d'emploi, mais en tout cas, le terme peut-être d'emploi a été prononcé tel que à l'époque, mais en tout cas, moi, je dirais d'activité, et en particulier dans certaines banlieues dans lesquelles, effectivement, c'était aussi un moyen d'apporter du travail et de répondre à certaines préoccupations sociales. Donc, Il y a un texte français dans lequel on a volontairement voulu soutenir ces activités-là, et on est vraiment encore dans ce contexte-là, et dans lequel, en fait, il y a une approche, je dirais, de ce que c'est que le secteur. Et d'ailleurs, on en voit encore les traces aujourd'hui. Hein. Enfin, fondamentalement, dans tout ce qui se met en place, il y a une incapacité à vouloir considérer ce que c'est qu'une régulation sectorielle et dans quel secteur d'activité, de quel secteur d'activité il s'agit concrètement. Ouais. Ce qui n'est absolument pas le cas de ce qui s'est passé dans d'autres pays.
D'accord. Et oui, justement, sur la question des emplois, enfin des emplois justement qui n'en sont pas, mais sur la réaction du président Emmanuel Macron en parlant de création d'emplois, est-ce qu'on n'est pas là face à une volonté de créer du travail précaire pour sortir des gens des chiffres du chômage? C'est un peu l'impression que ça peut donner, Thibault.
C'est la pensée, alors j'irais pas dire du macronisme en tant que tel, mais d'une partie des libéraux, pour qui voilà, c'est un travail comme un autre, que les cotisations sociales, de toute façon, sont un frein, et que le travail paie. C'est assez à l'américaine, au final, comme pensée, assez anglo-saxonne, alors qu'étonnamment qu'aux États-Unis, il y avait quand même plus de blocages pour Uber, de mémoire, et peut-être que Odile m'arrêtera sur ça, mais de mémoire, sur le plan juridique, ça a été plus complexe, j'ai l'impression, pour Uber aux États-Unis, puisque les corporations de taxi ont été plus puissantes, puisqu'elles sont régulées par les municipalités, alors que chez nous, c'est vrai que le statut des entrepreneurs a permis cette ouverture, mais il y a une espèce de croyance d'une partie de la droite française de se dire, bon, bah, il y a un travail, c'est l'essentiel, et on le voit bien, c'est un petit peu même presque, j'ai envie de dire, comme le débat du RSA, où on demande une contribution derrière à travailler, et en étant payé à 500 euros par mois. Ça ne choque pas une partie, cette droite-là. Alors que nous, la gauche social-démocrate, on a une volonté de trouver un compromis entre le capital et le travail qui doit normalement amener à une juste rémunération, qui n'est pas le cas dans le modèle de l'ubérisation. Et c'est là où il y a un véritable schisme dans notre société, je pense, sur cette vision-là de l'économie.
Et malgré tout, enfin, malgré cette position du gouvernement aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une contestation du modèle qui monte. Alors on a à ce niveau-là plusieurs exemples, mais je dirais d'abord la question... malgré tout, des condamnations récurrentes des acteurs qui sont assez récentes. Hein, mais je veux dire, Deliveroo a été condamné pour travail dissimulé en juillet en appel et a eu une amende conséquente à payer à l'URSSAF en début d'année. Est-ce que la justice est en quelque sorte en train de mettre un coup d'arrêt au modèle Uber et justement à une forme d'abus du statut d'auto-entrepreneur, Odile Chani?
Alors, la justice, elle joue en France, mais les décisions de justice sont nombreuses et clairement, enfin en Europe, j'entends, dans d'autres pays européens, il est évident, enfin quand on regarde l'inflexion qu'il y a eu à partir de, je dirais, dans les esprits un peu, 2020 était un tournant, hein, avec le Covid, y compris la prise de conscience de ces des travailleurs exposés. Les décisions de justice en Europe, et en particulier des décisions de justice majeures, notamment en Espagne, mais pas que, ont clairement joué pour réfléchir, alors on peut le dire de manière un peu, entre guillemets, cynique, mais pour réfléchir autrement à la sécurisation juridique. De toute manière, quand vous discutez avec les plateformes, c'est toujours une question de sécurisation juridique. Hein. C'est toujours ce qu'elles ont essayé de négocier dans le contexte français. De fait, le juge est roi, le juge est souverain. Donc le juge, il décide sur les faits. Et c'est exactement ce qu'on a constaté dans le cas français. Donc ce qui est évident, c'est que dans le contexte européen, ça a vraiment eu un impact pour déboucher tout simplement sur de nouvelles propositions législatives et puis aussi sur ce qui est en train de se jouer à l'échelle européenne. Dans le contexte français, on peut clairement aussi faire le constat qu'en fait, ça n'a pas eu d'effet particulier. Puisque tout un chacun, effectivement, note que le gouvernement et les pouvoirs publics français défendent, on peut quasiment appeler ça une voix française, y compris dans l'approche qu'il y a eu pendant la présidence française sur certains sujets. Quand on s'intéresse un tout petit peu à ce qui est en train de se passer ailleurs en Europe, ce qui est assez frappant, c'est que finalement, la France ressort vraiment comme un pays enfin, qui restent sur la conviction que le modèle de contractuel est un modèle qui passe par le travail indépendant et la prestation de services par un indépendant.
Oui.
Qui est clairement ce dont on s'éloigne de plus en plus dans plein de pays.
Oui, c'est ce que j'allais dire, mais il y a aussi... Enfin, on le voit, donc l'Espagne a adopté en 2021 une loi, la loi dite Riders, qui impose le salariat aux plateformes. On a aussi ce projet de directive européenne, hein, qui de présomption de salariat, justement, pour ces activités-là. Est-ce qu'au final, l'État aujourd'hui ne semble pas tellement vouloir réguler ce secteur, est-ce que la réponse européenne semble être une réponse pertinente face à cette problématique, Thibaut Guinet?
Alors là, c'est pareil, j'ai envie de dire qu'on a une capacité d'insoumission au niveau de l'Europe chez le gouvernement actuellement, c'est que quand il y a une proposition de directive et d'encadrer l'ubérisation en la reconnaissance de salariat et l'inversement comme c'est proposé en directive, on a un gouvernement qui traîne énormément des pieds. Enfin, fondamentalement, j'ai envie de dire que c'est aussi une question de rapport de force. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire bouger dans les esprits le gouvernement sur l'effet délétère qu'est l'ubérisation et qu'il doit y avoir une loi qui fait, comme en Espagne, une reconnaissance de salariat des plateformes. Et à partir de là, vous verrez, énormément de plateformes vont disparaître. Deliveroo, de mémoire, est parti d'Espagne, puisqu'automatiquement, leur modèle économique déjà était quand même compliqué. Là, s'effondre totalement et ils font le choix de sortir de ce marché. Et ça permet vraiment une véritable régulation. Et après, nous, on n'est pas spécifiquement à dire il faut aucune livraison, ce qu'on appelle en B2C, sur l'alimentaire. Mais il faut une livraison de qualité et raisonnée. Aujourd'hui, il y avait une non-régulation. Et donc, je pense qu'il y a des moyens. Il faut que l'État entende aujourd'hui une revendication en tant que commune et métropole.
Odile Chani, là-dessus, rapidement, est-ce que justement l'Europe peut apporter une sécurité aux travailleurs à ce niveau-là?
Juste un point sur ce qui s'est passé en Espagne, parce que c'est effectivement comme ça vient d'être
rapidement,
dit.
Rapidement, s'il vous plaît, reste ouais. Plus.
Ok, alors. Donc. Dire qu'en fait, ça n'a pas réglé les choses du tout. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est un message important à passer et à faire passer et à comprendre, c'est que ce n'est pas le statut qui détermine les conditions de travail. Ce n'est pas parce que vous êtes salarié que vous avez de bonnes conditions de travail. Dans le cas européen, la partie est très, 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 très loin d'être jouée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on en est au stade où, en gros, on a une présomption de salariat, mais qui est pas général comme dans le cas espagnol, qui est assujetti à un certain nombre de critères. Et en fait, on pensait initialement que c'était à la plateforme de prouver, comme en Espagne, qu'en gros, la personne est indépendante, mais il est fort probable que ce soit plutôt au travailleur à aller en justice, ce qui donc effectivement ne réglerait pas du tout encore les choses. Et en plus, on est dans un contexte où il y a eu un rapport du Parlement donc qui a été adopté avant l'été. Il y a eu des amendements qui ont été déposés et quasi tous les amendements des groupes plutôt libéraux, en fait, ont fait des conflits avec la proposition de la Commission. Donc la partie est très très loin d'être jouée.
Oui, donc pas de solution miracle aujourd'hui pour réguler ce secteur. Merci à vous, Thibaut Guinet et Odile Chani, pour votre participation aujourd'hui à cette émission. Et puis, bonne journée sur les antennes de radio.
C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master de Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe, à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.